VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, c'est Kabadou en direct de Washington pour vous présenter Le Monde aujourd'hui, édition de 18h30 en temps universel, la même heure à Abidjan, Bamako et Dakar. Voici les titres. Le nouveau premier ministre malgache a pris ses fonctions à Antananarive. Au Nigeria, des parlementaires menacent de recourir à une procédure de destitution contre le président Muhammadu Buhari. En République démocratique du Congo, deux nouveaux décès sont attribués au virus Ebola. L'Union européenne a voté des mesures de rétorsion contre certains produits américains en réponse aux taxes de Washington. Également dans le monde aujourd'hui, l'économie avec la République démocratique du Congo dont les revenus miniers ont triplé au premier trimestre 2018 et la page sportive avec le coup d'envoi de la Coupe du Monde dans 8 jours. Mais tout d'abord, le journal. Le nouveau premier ministre malgache, dit de consensus Christian Tsay, a pris ses fonctions ce mercredi à Antananarive en se fixant pour priorité la préparation d'une élection présidentielle inclusive pour tenter de sortir le pays de la crise politique. Nathalie Barge.
Lors de la passation de pouvoir avec son prédécesseur Olivier Mafali Solonandrazan, Christian Tsay a promis d'œuvrer pour la paix sociale, la sécurité et la lutte contre la corruption. De son côté, le chef du gouvernement sortant s'est réjoui que son départ se fasse dans le respect de l'alternance au pouvoir et a exhorté tous les partenaires à appuyer le gouvernement de consensus. Monsieur Tsay, haut fonctionnaire onusien, a été désigné lundi chef du gouvernement par le président Herry Ratsonarimampian, conformément à une décision de la Haute Cour constitutionnelle qui exigeait la nomination d'un premier ministre de consensus. La Cour a par ailleurs ordonné que les élections se déroulent avant septembre et non plus en fin d'année. Le président n'a pas encore annoncé s'il allait briguer un nouveau mandat, tandis que ses prédécesseurs Ange Radzwell et Marc Ravalomanan ont laissé entendre qu'ils seront candidats.
Les étudiants de l'Institut national de la jeunesse et des sports d'Abidjan ont coupé la circulation sur le pont Henri Konan-Bédié ce mercredi pendant près d'une demi-heure en réponse à la mort accidentelle d'un étudiant protestant contre leurs conditions de vie. Ils ont par ailleurs lancé des pierres avant d'être dispersés par les forces de l'ordre à coups de gaz lacrymogène pour ensuite refluer vers l'Institut. Au Nigeria, les parlementaires menacent de recourir à une procédure de destitution contre le président Buhari si des mesures fortes ne sont pas prises contre la corruption et rétablir la sécurité dans le pays. Le point avec Idrissa Fall.
Après une session conjointe tenue à huis clos à Abuja, les deux chambres ont affirmé que l'Assemblée nationale n'hésitera pas à recourir à ses pouvoirs constitutionnels si rien n'est fait. La résolution réclame le limogeage du chef de la police fédérale Ibrahim Idriss, accusé de ne rien faire pour empêcher les violences. Le groupe parlementaire APC a dénoncé la résolution adoptée sans aucun vote. La présidence n'a pas commenté ce texte publié par le service de communication du président du Sénat, Bukola Saraki, cadre du parti de Goodluck Jonathan qui a rejoint l'APC au pouvoir aux dernières élections. Les médias locaux font état de la rivalité entre M. Buhari et le président du Sénat à qui beaucoup prêtent des ambitions présidentielles. Bukola Saraki a été convoqué dimanche par la police pour être interrogé sur son rôle présumé dans des braquages de banques qui ont fait plus de 30 morts en avril. Les principaux suspects arrêtés l'ont désigné comme le commanditaire.
En République démocratique du Congo, deux nouveaux décès sont attribués au virus Ebola, portant à 27 le nombre total de morts depuis un mois dans le nord-ouest du pays. Le point avec Marie Benson.
Deux décès ont été enregistrés, dont un cas confirmé d'Ebola et un cas suspect. Selon le ministre congolais de la Santé, la famille du cas suspect a refusé le prélèvement d'échantillons. Selon le ministre, 58 cas ont été signalés dans la province, dont 37 cas confirmés, 14 probables et 7 suspects. Peter Salama, le directeur général adjoint de l'OMS, a donné son feu vert pour l'utilisation de 5 traitements qui ne sont pas homologués. Depuis le 21 mai dernier, plus de 1000 personnes ont été vaccinées dans une campagne ciblée à Mbandaka et à Bikoro, épicentre de l'épidémie. le pont aérien Kinshasa-Mbandaka, capitale de la province de l'Équateur, mis en place par les Nations Unies, a permis la distribution de 140 tonnes de matériel médical.
Non au troisième mandat de Kabila, la Senso mobilise, titre du potentiel à Kinshasa. Le quotidien quinois revient sur l'accord politique du 31 décembre 2016 qui balise le chemin pour des élections libres et transparentes. La Conférence épiscopale nationale du Congo milite pour la mise en œuvre intégrale de son compromis de la dernière chance. Pour l'abbé Donatien Tcholé, son secrétaire général, un probable troisième mandat du président Kabila est exclu, tout comme une éventuelle révision de la Constitution. Le nouveau Premier ministre éthiopien poursuit ses réformes après avoir levé l'état d'urgence dans son pays. Il a annoncé que l'Éthiopie accepte la mise en œuvre intégrale des conclusions d'une commission internationale indépendante concernant son différend avec le pays frontalier, l'Érythrée, un dossier sur lequel nous reviendrons dans notre partie magazine. Au Kenya, 5 policiers ont été tués dans l'explosion d'une mine artisanale au passage de leur véhicule à Libwa, dans l'est du Kenya, près de la frontière avec la Somalie. L'utilisation d'engins explosifs improvisés par des groupes islamistes contre les patrouilles de police et des militaires est courante dans cette région frontalière. Au Malawi, le vice-président a dénoncé publiquement la corruption du régime du président qui dirige le pays depuis 4 ans et a annoncé sa décision de quitter le parti au pouvoir. En dépit de tous les sacrifices accomplis par nos pères fondateurs, notre nation reste l'une des plus pauvres. Le népotisme, le copinage et la corruption sont endémiques et seuls ceux qui ont des relations en profitent, a-t-il lancé lors d'une conférence de presse. En Tanzanie, l'Église et le gouvernement ont rendu un dernier hommage lors d'une cérémonie retransmise à la télévision nationale des sœurs siamoises décédées à l'âge de 21 ans des suites d'une longue maladie et célèbre pour avoir entrepris des études universitaires. Dans ce pays où les personnes handicapées sont souvent marginalisées ou abandonnées, la naissance de Maria et Consolata avait ému beaucoup tout le pays. Au Zimbabwe, une pièce de théâtre fait grand bruit, interdite en 2012 par le président de l'époque, Robert Mugabe. Cette pièce de théâtre parle des massacres commis par son régime au début des années 1980. Sa chute en novembre dernier a convaincu l'auteur et le directeur d'un théâtre de la capitale, Harare, que l'heure était venue de mettre à l'affiche 1983, les années noires. Même le nouveau président Emmerson Mnangagwa fut l'un des acteurs des événements meurtriers que la pièce décrit.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les mesures de rétorsion de l'Union européenne contre certains produits américains comme les jeans, le bourbon, les motos, en réponse aux taxes de Washington sur son acier et son aluminium, entreront en vigueur en juillet, d'après la Commission européenne. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
La Commission européenne propose aux États membres des taxes additionnelles, généralement à hauteur de 25%, sur une liste de produits fabriqués aux États-Unis qu'elle a présentée à l'OMC. Les États membres doivent désormais se mettre d'accord pour savoir si l'ensemble des produits de cette liste seront effectivement taxés ou seulement une partie. L'Allemagne, qui était jusque-là réticente à taxer les produits de cette liste, semble prête à le faire. Maros Sefcovic, vice-président de l'exécutif européen, a affirmé que ces mesures sont conformes aux règles de l'OMC, ajoutant qu'il s'agit, je cite, d'une réponse mesurée et proportionnée à la décision unilatérale et illégale prise par les États-Unis. En mars, le président Donald Trump a annoncé des droits de douane de 25% sur les importations d'acier et de 10% sur celles d'aluminium. Après avoir bénéficié d'une exemption temporaire, l'Union européenne a vu ses taxes s'appliquer sur son acier et son aluminium le 1er juin.
L'avionneur Boeing, qui a reçu des commandes de 2 compagnies iraniennes pour un montant total de 20 milliards de dollars, ne livrera pas ses appareils après le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien. Boeing n'avait jamais comptabilisé dans son bilan ses commandes parmi les plus gros contrats signés par une entreprise étrangère suivant l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien. Boeing avait alors indiqué que ces contrats allaient permettre de soutenir des dizaines de milliers d'emplois aux États-Unis. Au Kyrgyzstan, plus de 1000 personnes, dont de nombreux écoliers, ont manifesté dans la capitale pour protester contre le meurtre d'une jeune femme qui avait été kidnappée pour un mariage. Les manifestants rassemblés sur la place centrale de Birkek tenaient des ballons blancs et des pancartes avec les slogans « Nous sommes contre les mariages par enlèvement » ou encore « Donner une chance aux femmes d'être heureuses ». La pratique du mariage forcé par enlèvement est en plein essor au Kyrgyzstan depuis la dissolution de l'Union soviétique et beaucoup de parents refusent de signaler la disparition de leur fille. À quelques jours de la Coupe du Monde en Russie, le mondial de football pour déficients visuels commence jeudi en Espagne, où la Roja, aux yeux bandés, espère remporter un titre aux dépens des favoris brésiliens. Nous reviendrons sur la page sportive dans quelques instants dans notre partie magazine. Cette 7e édition du mondial de sissi-foot auquel participent pour la première fois 16 équipes nationales se tient jusqu'au 17 juin dans les installations du collège privé de Madrid. 6 nations participent pour la première fois de leur histoire à la compétition, parmi lesquelles le Mali, première sélection d'Afrique noire à disputer le mondial. Voilà pour le journal. Restez à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOAfrique et VOAfrique.com. C'est l'heure de la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Bagassi Koura.
La République démocratique du Congo tire un plus grand profit de ses ressources naturelles. Ses revenus miniers pour le premier trimestre de 2018 ont triplé, se chiffrant à près de 400 millions de dollars selon des chiffres publiés par le ministère congolais des Finances. La RDC est la première productrice africaine de cuivre et la première au plan mondial en ce qui concerne le cobalt. Ces chiffres font ressortir une baisse de près de 11% des revenus gaziers et pétroliers. Le pays produit 25 000 barils jour de pétrole brut sur sa côte atlantique. La coalition au pouvoir en Éthiopie poursuit ses réformes avec l'annonce de l'ouverture au secteur privé du capital de grandes entreprises publiques. Un communiqué publié mardi soir précise que l'État restera l'actionnaire majoritaire et que le reste des parts sera mis sur le marché à l'intention des investisseurs nationaux et étrangers. Le Fonds monétaire international prévoit une croissance de 8,5% de l'économie éthiopienne en 2018, soit une baisse par rapport au taux de 10,9% enregistré en 2017. Enfin, la compagnie Oceana, plus grand groupe de pêche d'Afrique, est engagée dans une bataille juridique pour préserver ses droits de pêche en Namibie après l'annonce par les autorités namibiennes que les entreprises cotées en bourse ne recevront plus de quotas. Oceana opère également en Afrique du Sud, en Angola et aux États-Unis.
C'est l'heure de notre page sportive qui nous est présentée ce soir par Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Ekea, bonsoir à tous.
Demi-finale de la COSAFA Cup en Afrique du Sud.
La Zambie face à Madagascar et le Lesotho contre le Zimbabwe, c'est ce mercredi. Hier, lors des matchs de classement, l'Afrique du Sud, pays organisateur, a battu sèchement la Namibie 4-1. Le Botswana qui domine le Swaziland 2-0.
Le match Israël-Argentine annulé.
Et oui, ce match de préparation mondiale, prévu samedi à Jérusalem, il a été annulé sous la pression des Palestiniens qui avaient appelé Lionel Messi et ses coéquipiers à ne pas y participer. Ils craignaient une récupération politique. L'annulation survient quelques heures après une manipulation. Et cette annulation intervient quelques heures après une mobilisation devant le terrain d'entraînement de la sélection argentine à Barcelone, où des militants palestiniens ont brandi un maillot de la sélection argentine maculé de peinture rouge sang et les ont apostrophés en leur demandant de ne pas jouer le match. Un incident qui semble-t-il a marqué les joueurs argentins, selon les médias locaux.
Coup d'envoi de la Coupe du Monde dans 8 jours et l'Iran est déjà arrivé.
Ah oui, la sélection iranienne composée pour moitié de joueurs évoluant dans le championnat local et pour moitié d'expatriés, c'est la première équipe à être arrivée hier en Russie. Elle doit rejoindre son camp de base installé à Bakovka dans la région de Moscou, qui est aussi le camp d'entraînement du champion de Russie en titre, le Lokomotiv Moscou. Classé au 36e rang du classement FIFA, l'Iran démarrera sa campagne en Coupe du Monde par un match contre le Maroc le 15 juin, puis à Kazan pour affronter l'Espagne le 20 juin avant d'affronter le Portugal le 25 juin. Hier, la Russie, pays organisateur, a été accrochée en match amical par la Turquie, un but partout lors d'un match de préparation.
Tennis, surprise à Roland-Garros.
La numéro 1 mondiale et finaliste sortante, Simona Halep, s'est qualifiée pour les demi-finales de Roland-Garros en dominant une ancienne numéro 1 mondiale, l'Allemande Angelique Kerber, aujourd'hui 12e joueuse mondiale, en 3-7, le score 6-7, 6-3, 6-2. La Roumaine affrontera en demi-finale l'Espagnole Garbine Muguruza, qui a surclassé la Russe Maria Sharapova en 6-2, 6-1, lors d'un quart de finale décisif.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Et Kiabadou, toujours en votre compagnie pour Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. Des anglophones du nord-ouest du pays préconisent l'ouverture d'un débat sur l'instauration du fédéralisme et l'abrogation de la loi sur le terrorisme. Ce sont deux de leurs 18 propositions pour une sortie de crise. Plus de 800 personnes ont pris part à Bamenda à une concertation baptisée « Mission d'écoute des populations » à l'initiative d'une commission créée par le président Paul Biya. Les précisions dans ce reportage signé Emmanuel Juntap.
À Yaoundé, l'opinion publique juge pertinentes les propositions de sortie de crise anglophone telles que rendues publiques par la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Samuel Bondjok, leader d'opinion, et Marcelin Gingoum, habitant de Yaoundé.
Le débat, ça ouvrira les échanges et c'est cela qui permettra de décrisper un tout petit peu l'atmosphère parce qu'aujourd'hui, l'absence de commission de dialogue, de commission d'échange ou alors de débats ouverts et libres, ça crée, ça multiplie les extrémismes, ça multiplie les tensions, ça multiplie les attaques dans un camp comme dans l'autre.
Parmi les 17 propositions de sortie de crise, le retour au fédéralisme figure en bonne place. Un point querellé, mais qui mérite cependant d'être discuté, selon Lazare Zambo, journaliste politique.
Il ne faut pas qu'on nous fasse croire qu'il y a des sujets tabous. Ce n'est pas parce qu'on a parlé du fédéralisme que ça fait problème, mais ce qui doit primer, c'est la force des arguments en respectant les règles démocratiques.
Les hommes politiques espèrent quant à eux que le chef de l'État ne fera pas fine bouche des propositions annoncées hier. Léonide Mfoum, militant de l'UNDP.
Que le chef de l'État s'explique, s'exprime, donnant, n'est-ce pas, une certaine caution au groupe qui allait travailler de façon à rassurer tout le monde.
Après les propositions de sortie de crise, l'on attend une sortie officielle du gouvernement qui ne devrait pas tarder. Mais déjà, les anglophones croient que les beaux temps pointent à l'horizon. Docteur Nick Nguanyang a pris part aux journaux d'écoute le 31 mai dernier à Bamenda.
Après une pluie, il y a toujours le soleil. Donc on se dit que c'est un début de soleil avec le Mosonge Commission qui est venu à l'encontre et à l'écoute des anglophones. Mais comme je venais de dire tout à l'heure, les anglophones qui ont eu à s'exprimer, ce sont les anglophones qui se trouvent ici à Bamenda ou au nord-ouest. Mais il faut dire aussi qu'il y a des anglophones qui sont en prison. Il y a les anglophones qui sont dans le diaspora qui ne se sont pas s'exprimer. Et pour le faire, ils seront obligés de se présenter à cette dialogue qui sera inclusive.
La crise anglophone a déjà fait plus de 160 000 déplacés depuis 2016 et des victimes civiles et militaires. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Raissa Girondin avec vous. Cette semaine, Washington Forum braque les projecteurs sur le Burkina Faso, tombé depuis 3 ans dans un cycle d'attaques terroristes et d'enlèvements dans le nord du pays. Pourquoi ce climat d'insécurité perdure? La stratégie de lutte contre le terrorisme du gouvernement doit-elle évoluer? Une implication de la population est-elle possible alors qu'elle se sent de moins en moins protégée? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h en temps universel.
Le nouveau premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, poursuit ses réformes. Après avoir levé l'état d'urgence dans son pays, il a annoncé que l'Éthiopie accepte la mise en œuvre intégrale des conclusions d'une commission internationale indépendante concernant son différend frontalier avec l'Érythrée. Timothée Donambay a recueilli à ce sujet l'analyse de Roland Marchal du Centre de recherche internationale de Paris.
D'un côté, il y a des marques réelles de changement, la libération de leaders politiques, la libération aussi de très nombreux prisonniers qui ont été un peu arrêtés sans trop de discernement par l'État. Et donc ça laisse évidemment penser que les choses vont aller mieux. Et puis, de l'autre côté, on se rend compte que dans la vie quotidienne, les choses n'évoluent pas aussi rapidement qu'on devrait et qu'on pourrait l'espérer. Et qu'en particulier, les contrôles policiers et, disons, les réflexes de pouvoir continuent encore à être omniprésents et font qu'on perçoit un changement. Et en même temps, on perçoit la fragilité qui est évidemment très grande de ce changement.
Qu'en est-il de la décision des dirigeants éthiopiens de mettre un terme à leurs différends frontaliers avec l'Érythrée?
Le diable est dans les détails. On connaît l'histoire, accord d'Alger, décembre 2000, où Éthiopie et Érythrée promettent de s'en remettre à une commission internationale de juristes pour déterminer la frontière. Et puis 2002, une décision qui prend complètement à contre-pied l'Éthiopie, puisque ce qui avait été un peu présenté comme la source du conflit, la ville de Badme, est placé par la Commission internationale à l'intérieur de l'Érythrée. Et donc à partir de ce moment-là, la mise en œuvre de la démarcation de la frontière va être bloquée. Le régime éthiopien, sous Meles Zenawi, puis son successeur, va être bloqué essentiellement en demandant des discussions préalables à la délimitation des frontières. Et évidemment, l'Érythrée, qui pouvait enfin prendre une revanche symbolique sur sa défaite militaire, s'y est refusée et bloquant tout le processus. Aujourd'hui, il y a un espoir. Et en même temps, cet espoir, il faut, et c'est là que je me répète, en souligner la fragilité. D'une part, l'Éthiopie dit qu'elle est prête à une application intégrale de l'accord d'Alger, donc de la décision de la Cour. Mais en même temps, ça veut dire que l'Éthiopie va devoir rapatrier un certain nombre de troupes de ce qui devrait être, par application de cet accord, considéré comme territoire érythréen. Est-ce que ça va être fait? Très étrangement, la décision de la direction de la coalition au pouvoir n'est pas rentrée dans ce détail-là. Du côté d'Asmara, évidemment, c'est d'une certaine façon un cadeau empoisonné. D'un côté, évidemment, Asmara peut crier victoire. De l'autre, le fait de ne plus disposer de cet argument symbolique pour justifier la répression interne, la mobilisation et l'encasernement des jeunes, signifie que le régime érythréen va devoir changer de politique vis-à-vis de sa propre population.
Roland Marchal du Centre de recherche internationale de Paris.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Sénégal, la petite localité de Popanguine est connue pour son pèlerinage marial. Elle devient chaque année, à l'occasion de la Pentecôte, le lieu de convergence de dizaines de milliers de chrétiens venus de tout le pays et de la sous-région. Et pourtant, la majorité de la population est musulmane, à l'image du reste du pays. À Popanguine, on célèbre avec fierté cette diversité religieuse, tout en mettant en avant les liens sanguins. Reportage sur place, Abdourahman Dia.
Popanguine, sur la petite côte sénégalaise, à 70 km de la capitale Dakar, ressemble à une ville morte durant le ramadan et quelques jours après le pèlerinage marial de Pentecôte. Mais ici, la devise pourrait bien être « une ville, une famille, une foi », partagée par musulmans et chrétiens et symbolisée par la proximité des lieux de culte. Ici, l'église et la mosquée sont à quelques jets de pierre. Cheikh Sis est l'assistant de l'imam de la mosquée.
Il y a des membres de ma famille qui sont chrétiens. Du côté maternel, il y avait des chrétiens. Jusqu'à présent, j'ai des oncles chrétiens. C'est vraiment une fierté. C'est le bon Dieu qui nous a demandé de préserver les liens familiaux. Et pour moi, un parent, quel qu'il soit, est un parent. Et je le considère comme tel.
Cette année marque la 130e célébration du pèlerinage chrétien de Popenguin, une ville que le pape Jean-Paul II a visitée en 1992. Mais cette visite n'est pas la seule fierté de Popenguin. Le cardinal Hyacinthe Tchandoum, le premier archevêque sénégalais autochtone, est un natif de la localité. Il est aussi le fruit d'un mariage interreligieux. Père Marie-Jean de Cumont est le recteur du sanctuaire marial.
Il y avait 20 filles et 18 garçons, donc il y a eu deux rescapés. Et dans ces premiers mariages, il y a eu François Flavie Tchandoum, qui était le chef du village, qui est devenu chef du village et qui est le papa du cardinal Tchandoum, et Anna Diemé Alassane Sen, qui était la fille de l'imam et qui est devenue la maman du cardinal Tchandoum.
Malgré la forte implantation des religions musulmanes et chrétiennes, ce baobab sacré, qui continue d'être un lieu de recueillement obligé des lutteurs traditionnels, est encore là pour rappeler le passé animiste de Popenguin. L'événement le plus important qu'accueille la ville reste néanmoins le pèlerinage marial, une fête pour toute la ville. Lucie Manga est la présidente des femmes chrétiennes de Popenguin.
Avec la manifestation, nous le faisons ensemble parce que les musulmans aussi reçoivent les pèlerins en même temps que nous.
Pape Moussa Cissé, le président du comité de gestion du foyer des jeunes, abonde dans le même sens.
Toute la logistique, on aide nos frères chrétiens à organiser la fête. Et pendant la fête, on sort de nos maisons pour que les pèlerins puissent habiter là-bas quoi, pendant les 72 heures qui sont là. Au niveau de Popenguin, on ne parle pas de dialogue islamo-chrétien, on parle de la cohabitation.
Et cet héritage de cohabitation, les jeunes de Popenguin entendent bien le garder jalousement. Abdourahmane Dia, VOA Afrique, Popenguin, Sénégal.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
La ville de Douala a abrité les 2 et 3 juin la première édition de la Foire d'art contemporain et de design du Cameroun, un rendez-vous culturel inédit qui a fait courir de nombreux visiteurs et permis aux exposants de mieux se faire connaître du grand public. L'art contemporain camerounais semble avoir de beaux jours devant lui. Notre correspondant Emmanuel Ntap était sur place.
Sous une dizaine de chapiteaux, 20 artistes plasticiens et designers exposent des œuvres d'art contemporain du Cameroun à Douala. Tableaux, masques, photos, étoiles mettent en valeur la richesse culturelle du pays, comme le dit l'exposant Haku Hansen.
C'est une jeune femme qui doit aller au mariage et qui, lorsqu'elle part au mariage, alors on l'amène dans les lieux sacrés pour l'invoquer, pour lui parler des choses, pour lui expliquer les codes et règles durant son mariage.
Sur le site de l'exposition, la créativité des artistes impressionne. Ici, à l'aide de coupures de presse, une œuvre d'art sous forme d'un plan de circulation d'une ville camerounaise. Là, de vieilles tôles recyclées pour en faire une œuvre d'art. Un talent d'artiste qui n'est pas toujours récompensé à sa juste valeur.
Il y a des jeunes qui avancent, et qui touchent presque, qui ne touchent pas encore, qui ne touchent rien du tout. Et il y a d'autres qui sont moyens. Et moi, je suis moyen. Et il y a de cela quelques années, j'avais rien, mais je produisais déjà.
On écoutait l'exposant Talim Bok. L'événement a pu cependant donner du sourire à certains exposants. Une collectionneuse a décidé d'acquérir cette toile de l'artiste Marc Padeux, dont les travaux figurent dans la collection permanente de la Banque mondiale à Washington. Écoutons la collectionneuse Khadija Sango.
Ce qui me plaît, ce sont les traits quasiment réels de l'homme quand on regarde le corps. Ensuite, il y a le jeu de couleurs entre les couleurs sombres et la luminosité. Donc le jeu entre le violet et le jaune, c'est quelque chose d'assez magnifique.
Selon les organisateurs, plus de 1000 personnes ont visité en 3 jours la foire artistique de Douala. Des visiteurs venus d'horizons divers, mais aussi des jeunes et des expatriés. Tous émerveillés par la diversité de la créativité artistique camerounaise. Au deuxième jour de l'exposition, un échange sur l'école camerounaise de l'art a réuni un panel constitué de 2 universitaires et d'une icône de l'art contemporain camerounais, fille du roi Douala, Manga Bell.
Il y a des très bons artistes qui font de l'art contemporain au Cameroun que je ne connaissais pas.
La première foire d'art contemporain et de design camerounais est une initiative d'une jeune Camerounaise, elle-même férue d'œuvres d'art, Diane Audrey Ngako.
Et le but vraiment pour Douala Art Fair est d'être le carrefour, en tout cas le point de rencontre entre l'art contemporain, le design, les Camerounais et le reste du monde. Donc on est assez contents parce qu'on a eu près de 1000 personnes en moins de 24 heures et ça nous rend beaucoup heureux.
Plus de la moitié des exposants de Douala Art Fair résident au Cameroun, de grands talents encore méconnus localement.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Lionel Gaïma à la mise en onde, Ergus Regus à la console et Kabadou à la présentation. On reste connectés sur Facebook et sur notre site internet voafrique.com pour plus d'actualités.